Bonjour à tous, et ça tombe bien parce que on a un long texte aujourd'hui, donc mais on va essayer d'être efficace. Est-ce que vous trouvez que dans ce monde, il y a des choses tordues, qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner? Des choses peut-être belles à l'origine, mais qui nous laissent quand même un goût d'insatisfaction. Et les circonstances de notre vie, elles nous le rappellent souvent. Le comportement malhonnête d'un patron, nos corps qui font défaut. Et ça tombe bien parce que le personnage à propos duquel on va parler, c'est Jacob, qui est quelqu'un d'assez roublard, assez tordu. Et je pense qu'il peut facilement nous rejoindre dans notre personne. Quand on voit aussi peut-être des choses tordues, un peu cachées, pas toutes droites dans notre vie. Et peut-être que vous vous dites, mais avec tout ce qu'on voit autour de nous, avec cette notion d'inachevé, d'insatisfaction, et Dieu dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? On a vite l'idée que si Dieu est tel qu'on l'a chanté, un Dieu tout-puissant, et on veut croire que c'est un Dieu tout-puissant, plein de bonté, plein de grâce. Comment voit-il le fait notamment qu'il y ait des choses tordues dans ce monde, que mon cœur aussi, et que nous traversons des galères? Alors en disant cela, je suis conscient qu'il y a pas mal de personnes qui sont particulièrement éprouvées en ce moment dans notre Église, et qui sont peut-être mises à mal dans leur confiance qu'ils peuvent faire à Dieu, qui ont peut-être des doutes, et qui ont besoin de voir ce Dieu dans ces galères pour que leur confiance soit renouvelée. Et peut-être que vous êtes venu dans cette église et vous ne vous définissez pas comme chrétien, mais vous vous posez des questions sur Dieu et vous apprenez à le découvrir petit à petit et à découvrir qui il est vraiment. Et notamment, si vous traversez une galère, vous vous demandez, mais qu'est-ce que Dieu fait dans cette situation? Et bien ça tombe bien parce que Jacob, le personnage qu'on va voir, il va traverser 20 ans de galère. Et en fait, il est fugitif, il a dû fuir le domicile familial où il avait une certaine sécurité parce qu'il a volé le droit d'aînesse et la bénédiction, le droit d'héritage à son grand frère en trompant son père qui était aveugle. Et là, il est en fuite. Il est en fuite parce qu'il est en danger de mort à cause de son père, de son frère. Et sur sa route, alors il était à peu près en Israël-Palestine actuelle, et il va monter vers la Syrie, donc il va faire 600 km de marche direction nord, et sur sa route, il va rencontrer Dieu dans un rêve de manière assez puissante et surprenante. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et là, on a ce Jacob qui apprend à connaître ce Dieu, et il arrive chez tonton Laban, dans la famille où il cherchait refuge. Et on va le voir, en fait, il va rencontrer encore plus tordu que lui, Laban. Et Laban va être à l'origine de 20 années de galère chez Jacob. Alors, on va regarder d'abord, on a trois chapitres aujourd'hui, on ne va pas tout lire, je vais vous résumer quelques parties, il y a Candice qui vient pour lire une partie. Jacob rencontre d'abord dans un puits sa cousine Rachel, donc la fille de Laban. Et Rachel va voir le tonton Laban qui lui dit: Ah, on a trouvé Jacob, ton neveu. Laban l'accueille de manière émouvante, ils sont vraiment contents de se retrouver. Et juste avant, pendant ces retrouvailles, il y a un petit verset qui va un peu poser le ton de ce qui va se passer par la suite dans la relation entre Laban et Jacob. Je vous propose de lire ces petits versets, à partir donc chapitre 29, verset 13, et ensuite je laisserai Candice lire la suite. Voilà ce que dit Laban. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa, puis il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban, c'est-à-dire comment il a trompé son frère, comment il a trompé son père, et comment ça se fait que tu es fugitif, quoi. Pourquoi tu as fui ton foyer? C'est parce qu'il a joué des coudes, qu'il était tordu. Et Laban lui dit, c'est certain. Tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. En quelque sorte, comme si ça fait allusion en fait à Adam qui découvre Ève, enfin un vis-à-vis, quelqu'un qui me ressemble. Et là, Laban, il se dit, ah, on va bien s'entendre. On va bien s'entendre. Et c'est parti maintenant pour Jacob qui va à son tour apprendre de grandes leçons de sagesse en se faisant lui-même tromper. Et je laisse Candice nous lire ce passage dans un premier temps.
Jacob habita un mois chez Laban. Puis ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous, de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit à Rachel, qu'il préférait même à Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années.
Merci Candice. Donc voilà, Jacob le trompeur se fait tromper à son tour. Il a trouvé encore aussi tordu que lui, voire même pire, Laban. Et pour une fois, il va se retrouver de l'autre côté et apprendre très douloureusement ce que c'est que se faire rouler dans la farine. En fait, Laban a vu que Jacob était un bon gestionnaire. Et on va le voir par la suite, c'est quelqu'un qui est un bosseur, qui sait bien s'en sortir. Et il a aussi remarqué la faille de Jacob, c'est qu'il est fou amoureux de Rachel. Il est fou, et c'est bien, c'est pas un problème, mais que, en fait, cet amour va l'aveugler. Et c'était sa faiblesse, et Laban va exploiter cette faille. Notamment, Jacob propose de servir 7 ans, ce qui est absolument exorbitant, pour constituer un butin pour commencer le foyer. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, Laban? Il se dit, ah, mais ça tombe bien, j'ai une fille aînée qui n'est pas très jolie, qui va peut-être avoir du mal à se caser. Je vais la caser. En même temps, je vais faire un bon business parce qu'il me propose 7 ans. Je vais lui redemander 7 ans et il va profiter de l'aveuglement de Jacob, sous-entendu probablement un peu d'alcool. Il faisait nuit, il y avait le voile. Hop, Léa, vas-y, c'est à ton tour. C'est toi qui vas épouser Jacob. Léa, la pauvre, n'a rien demandé. Et le lendemain, surprise. Plutôt très mauvaise surprise, c'était Léa. Et en fait, Jacob avait trompé Isaac parce qu'il était aveugle. Et là, Jacob se fait tromper par Laban parce qu'il était aveugle. Et alors, pauvre Léa, qui est un second choix, qui n'a pas choisi d'être dans un mariage polygame, Jacob non plus. Enfin, Jacob aurait pu se satisfaire de Léa et puis pas demander Rachel par la suite, mais bon. Il se retrouve dans un foyer où il y a deux sœurs en compétition pour l'amour de Jacob, et Jacob préfère Rachel. Et c'est parti maintenant pour une compétition entre les deux sœurs qui ne fait que commencer. Et on va voir la suite. Une lutte entre ces deux sœurs pour l'amour de Jacob. Et on va lire du coup maintenant les versets qui suivent, à partir du verset 31 jusqu'au chapitre 30, verset 24. Vous allez voir. Prêtez particulièrement attention à comment les épouses nomment leurs enfants. C'est assez révélateur sur comment elles perçoivent leur situation et comment elles perçoivent Dieu. On reprend à partir du verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. » Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs !» La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Elle dit « Voici ma servante Bila, aie des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme sa servante Bila et Jacob eut des relations avec elle. Bila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit « Dieu m'a rendu justice, il m'a même écouté et m'a accordé un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bila, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et dit. Et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. » Et elle l'appela Nephtali. Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Léa prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, donna un deuxième fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse ! Oui, les femmes me diront heureuse. » Et elle l'appela Aser. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores. A priori, c'est un aphrodisiaque, le mandragore. Dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa, « Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle tomba enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela Issachar. Léa tomba encore enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi car je lui ai donné 6 fils. » Elle l'appela Zabulon. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, « Dieu a enlevé ma honte. » Et elle l'appela Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Voilà, la galère chez Laban, c'est notre premier point. Gros conflit familial sur le plan du business avec Laban et sur le plan conjugal entre Rachel et Léa. Et tous les moyens sont bons entre Rachel et Léa pour obtenir l'amour de Jacob. Avoir donné des enfants, et surtout des fils, négocier avec qui Jacob va coucher, ou alors utiliser des servantes pour parvenir à leurs moyens. Et au milieu de tout ça, pauvre Léa. On a vraiment de la pitié pour elle quand on lit ce texte. Elle fait que subir, en fait, dans ce texte. Elle n'a pas choisi, elle a les yeux, peut-être un problème aux yeux qui la rend peut-être moins attirante, alors que sa sœur, elle est belle à tout point de vue. Elle n'a pas choisi de se retrouver dans ce mariage bigame, enfin après c'est bien même tétragame avec 4 femmes. Et elle doit se battre pour elle cherche en fait l'amour de son mari Jacob, et elle n'arrive pas à le trouver. Mais Dieu a compassion d'elle, au milieu de sa galère. Dieu a compassion. Et on verra aussi Dieu, à la fin, vous voyez, il a eu compassion de Rachel face à sa stérilité. Et au milieu de toute cette compétition, on a déjà 11 des 12 patriarches, des 12 pères qui formeront les 12 tribus d'Israël, toute l'histoire de l'Ancien Testament qui suit. Au milieu de tout ce combat, de cette compétition, il y a déjà 11 des 12 patriarches qui sont en train de se former. Au niveau familial, c'est la galère. Bon, et au niveau du travail, comment ça se passe, Jacob ? Eh bien, c'est la suite du texte qu'on ne va pas lire, mais je vous la résume. Jacob va encore travailler 6 ans pour constituer son propre salaire, parce qu'il n'est pas encore autonome. Et il veut pouvoir avoir des richesses. Et à l'époque, les richesses, c'était des brebis, c'était du bétail. Et donc, comme Jacob est un bon berger, il propose à Laban, ben, maintenant, je vais tel type de brebis qui sont tachetées, rayées ou noires, je les prends, etc. Il y a toute une histoire un peu de type de brebis qui va constituer son salaire. Laban accepte. Puis finalement, en fait, Laban, il se rend compte que Jacob commence à gentiment le dépouiller parce que Jacob est un très, très bon généticien. Il a compris comment accoupler quelle brebis avec quelle brebis pour que ce soit les siennes. Il est très malin et surtout, Dieu l'aide aussi dans cette démarche. Et Laban va sans cesse arnaquer Jacob, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jacob va être intègre dans son travail et Dieu va le bénir. Et une fois qu'il a constitué un bon cheptel, qui devient riche, Laban et ses fils, les fils de Laban, vont comploter contre Jacob. Et là, Jacob, il commence à sentir qu'il faut qu'il rentre. Et Dieu va lui dire, va se révéler à lui et lui dit, il faut que maintenant tu retournes dans ta famille, retourne donc Israël, Syrie, fais 600 km vers le sud. C'est le moment de partir de chez Laban. Et puis de toute façon, Rachel et Léa sont d'accord parce que leur père les a déshérités. Elles n'ont plus d'attache ici. Mais Jacob va partir sans dire au revoir. Pas comme vous, les caillates. Et Laban va s'en rendre compte et il va les rattraper après 7 jours de marche acharnée. Mais il va arriver avec des hommes qui peuvent vraiment enfin détruire Jacob et reprendre le troupeau, reprendre ses filles. Enfin voilà. Et alors Laban je pense qu'il a des mauvaises intentions envers Jacob et ses enfants. Mais Dieu apparaît à Laban et lui dit tu ne le touches pas. Il va le protéger, il va le garder et tu ne lui feras aucun mal alors qu'il aurait les moyens de le faire. Et ensuite, il y a une sévère explication entre Jacob et Laban. Et je vous propose juste de lire au chapitre 31, les versets 38 à 42, comment ça se passe. Voilà ce que dit Jacob à Laban, à son oncle Laban. « Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes trouvées déchiquetées. J'en ai payé le dédommagement. » Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement, donc en prévenant Laban de ne pas le toucher. Donc finalement, Laban est obligé de lâcher le morceau, et contraint par Dieu, il dit au revoir à ses fils et ses filles, et il conclut une alliance, une sorte de pacte de non-agression, et Jacob peut repartir avec toute sa famille et tous ses biens. Et on voit au passage Rachel, qui vole les statuettes, les idoles, parce que Laban est polythéiste, et il vole les petites idoles de la famille, une sorte de statue, à Laban, ce qui est quand même assez grave. Donc Rachel est encore dans son polythéisme. Et Laban n'arrive pas à les retrouver. Et Rachel use de ruse pour ne pas que Laban les retrouve. Conclusion, 4 personnages principaux, 2 conflits majeurs. Jacob contre Laban sur le point de vue professionnel. Rachel et Léa sur le point de vue conjugal et familial. Et à chaque fois, il y a un oppresseur et un oppressé. Laban oppresse Jacob, Rachel oppresse Léa. Et en fait, ce qu'on voit dans ce récit, c'est que finalement, la personne en position de force, que ce soit Laban qui lui a son économie déjà qui tourne, et Rachel qui est belle, qui a l'amour de Jacob, ben, c'est ceux qui portent le moins de fruits, voire même pas du tout dans ce texte. Ceux qui portent le plus de fruits, c'est qui ? C'est Jacob qui, par la force de du coude et par l'aide de Dieu, arrive à constituer un troupeau. Et c'est Léa qui, dans son malheur, donne 6 fils, la moitié de des tribus d'Israël, avec l'aide de Dieu. En fait, ce sont ceux qui souffrent le plus dans ce récit, qui portent le plus de fruits. Dans tout ce récit, il n'y a aucun moment de paix. Je ne sais pas si vous avez lu ces chapitres, mais c'est tout le temps des conflits, continuels, incessants. Et parfois, on a l'impression que notre vie est un peu comme ça, une continuité de ce genre de choses. Mais ce qu'on voit chez Jacob, c'est que Dieu est en train de forger progressivement son serviteur. Il est en train de lui faire acquérir de la sagesse. Il est en train de redresser ce qui est tordu. Et ça fait mal. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder ce qui se passe sous l'angle spirituel dans le cœur de chacun de ces quatre personnages. Parce qu'on voit du progrès chez certains, notamment chez Jacob et surtout chez Léa, et chez d'autres moins. Alors regardons plus en détail et je vous propose la deuxième partie, les idoles ou la confiance en Dieu. Il y a beaucoup d'idoles dans ce texte. Alors les idoles, comme je vous ai dit, ça peut être des statuettes, des choses qu'on a fabriquées, et comme ce qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume 135, des choses qui ont des bouches mais qui ne parlent pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Et à l'époque, il y en avait, et on pensait obtenir un bénéfice avec ces idoles, on leur offrait des sacrifices, et on plaçait notre confiance, on avait notre sécurité dans ces choses-là. Peut-être vous vous dites, ben aujourd'hui, moi, j'ai pas ce genre de gris-gris à la maison, ou ce genre de choses, c'est un peu dépassé. Mais on a plein d'idoles immatérielles. Des choses dans lesquelles on met notre sécurité, où on met notre confiance, qui nous exige des sacrifices, peut-être du temps, de l'énergie, des pensées, mais qui finalement ne nous satisfont pas et qui peuvent même nous faire du mal. Et ce sont peut-être même à la base des bonnes choses. Je vous cite un exemple. Jacob, son idole, c'est son amour pour Rachel. Il aime Rachel et c'est très bien, mais il en fait vraiment limite son salut, son sauveur. Il s'attache tellement que ça le met dans une mauvaise posture et il ne prend pas les bonnes décisions. Alors commençons par Laban. Laban, tordu, opportuniste, il aime l'argent, il aime le confort, il aime les richesses. Il est attaché à ses dieux mésopotamiens. Il aurait pu apprendre à connaître Dieu et à lui faire confiance parce que Jacob l'a rencontré et ils ont certainement dû en parler. Et surtout en voyant, à un moment on voit, il dit « J'ai appris par divination que si je suis béni dans mon troupeau, c'est grâce à toi et surtout grâce à ton Dieu. » Donc Jacob Laban voit ça, mais il n'en tire pas profit. Il cherche juste d'obtenir un profit matériel, mais pas spirituel. Et finalement, il ne porte aucun fruit. Il finit dépouillé de son troupeau. Il perd ses filles et son troupeau à la fin. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ne passons pas à côté de la plus belle bénédiction que Dieu veut nous offrir, celle de connaître Dieu. Et on voit aussi Laban pas prêt à reconnaître ses torts dans ce passage. J'ai beaucoup aimé, Jean-Marc, ce que tu as dit tout à l'heure, où tu t'es rendu compte que dans ta galère, en fait, Dieu a utilisé ça pour commencer à arracher des choses dans ta vie, à te rendre compte de l'inconsistance de certaines choses auxquelles tu t'étais attaché, peut-être l'idole du contrôle, tu mentionnais. Et je crois vraiment que Dieu veut faire la même chose dans nos galères. En fait, tu es un super exemple. Jacob, tu peux vraiment facilement t'identifier à Jacob. Et je pense que nous, quelque part, on peut aussi s'identifier si on traverse une galère. Ça ne va peut-être pas durer 20 ans, mais de se dire « Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir m'arracher ? Qu'est-ce que Dieu veut me montrer dans mes galères ?» Nous rendre compte, là, tu t'attaches à cette chose qui ne te satisfait pas. Lâche-la et fais-moi confiance, même si tu ne comprends pas tout. Parce que là, dans ce texte, Dieu, regardez, il est puissant. Dieu, on ne le voit peut-être pas agir comme ça, mais il est dans les coulisses, là. Et il se révèle à Jacob, il se révèle même à Laban. Mais tout dépend de comment ces gens réagissent. Jacob, maintenant, son idole, on l'a vu, c'est Rachel. Ça l'aveugle. Mais il est encore en apprentissage, Jacob. On le voit progresser, tout n'est pas parfait. Ça reste encore un peu tordu, mais il apprend petit à petit à discerner la main de Dieu dans sa vie. Il a eu cette rencontre forte, mais son caractère se forge. Et à la fin, on le voit obéir à Dieu. On le voit reconnaître que c'est Dieu qui le bénit. Que si, c'est ce qu'on a vu là tout à l'heure. Si Dieu n'avait pas été là, tu m'aurais envoyé les mains vides. Enfin, il apprend à faire confiance en Dieu. mais il a galéré pendant 20 ans. Ça fait mal de redresser ce qui est tordu. Rachel, maintenant, elle aussi, elle est idolâtre. À quoi elle s'attache particulièrement? Et on peut comprendre, bah, c'est le fait de vouloir devenir mère. Pourtant, elle a tout. Elle a l'amour de Jacob, elle est belle, mais elle n'est pas maman. Et en fait, bah, elle a certainement aussi entendu parler de Dieu, mais elle ne va pas forcément chercher à lui demander de l'aide. Elle va plutôt accuser son mari, mais donne-moi un enfant! Mais elle ne considère pas que Dieu peut l'aider. Et même, elle va plutôt comprendre que Dieu est un moyen pour gagner la compétition contre sa sœur Léa. Et Léa, maintenant, la pas choisie, la pas aimée, le second choix. Au départ, regardez le nom de ses enfants. Elle veut trouver sa réalisation dans l'amour que son mari lui porte. On va relire au chapitre 31 les versets 32 à 35. Regardez les quatre premiers prénoms des enfants. Le premier, chapitre 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et lui permit d'avoir des enfants. Tandis que Rachel était stérile, Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera ». Donc Dieu, elle reconnaît que Dieu a compassion d'elle, mais elle reste attachée, ben moi ce que je veux c'est quand même l'amour de mon mari. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée ». Bon, ben, ça n'a rien changé ton premier fils, t'es toujours pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné trois fils ». Donc elle est encore attachée. Elle espère encore que son mari l'aime. Et au bout d'un moment, regardez le quatrième. « Cette fois-ci, ce n'est pas mon mari, cette fois-ci. » Elle tomba enceinte et mit au monde un fils et elle dit « Cette fois, je célébrerai l'Éternel ». Il y a un changement de situation, un changement de priorité. Et c'est normal. Enfin, c'est comme si elle avait lâché le fait... Bah, bien sûr, elle souffre toujours, elle désire que son mari l'aime, et c'est une bonne chose. Mais sa priorité, ça va être maintenant, je me concentrerai sur l'Éternel. Je vais regarder à Dieu, et ça ne va pas m'empêcher de le louer. C'est ce que tu disais, Jean-Marc. De servir, de louer Dieu dans mes circonstances. Si seulement mon mari m'aimait, si j'avais ça, si seulement j'avais ça, ben bah non. Merci. En fait, Jean-Marc, tu as déjà tout dit. C'est génial. Elle finit par trouver sa satisfaction et sa paix en lui. Alors, tout n'est pas non plus parfait chez Léa, mais on la voit vraiment progresser par le choix des prénoms qu'elle donne à ses enfants. Et alors, Dieu dans tout ça, au milieu de toutes ces choses, il y a deux réalités. Il y a une réalité qui va concerner vraiment juste notre récit. On voit des conflits, on voit Dieu agir. On va l'appeler la réalité micro, c'est-à-dire zoomée sur notre récit. Eh bien, on voit que Dieu est en train de redresser ce qui est tordu chez Jacob et il a envie d'arracher les idoles de tout le monde. Et ça marche chez certains, ça ne marche pas chez d'autres. Ça marche bien chez Jacob et surtout chez Léa. Et on le voit aussi plein de compassion pour les opprimés. On le voit protéger Jacob, avoir pitié de Léa. Et puis, il y a une réalité plutôt macro, si on dézoome. En fait, Dieu, il avait promis à Abraham, le grand-père de Jacob, une grande descendance. À Isaac aussi, il avait aussi promis à Jacob qu'il le protégerait. On l'a vu la semaine dernière. Et Dieu est en train d'accomplir son plan au travers de personnes bien imparfaites et malgré le mal qui se fait. Parce que là, on n'est plus à un jeune couple qui est stérile, qui a 90 ans, qui a un enfant miraculeusement. Ça, c'était Abraham qui a eu des enfants. Ensuite, Isaac et Rebecca, les parents de Jacob, elle était stérile aussi. Ils ont dû prier et finalement, ils ont eu deux enfants. On a Jacob, mais ça reste limité. Et là, c'est parti. Là, on en a 11. La machine est lancée, quoi. Le peuple, il va se former. La descendance nombreuse, la promesse, ça devient concret. Mais ça devient concret au milieu de compétitions, de galères. Et alors nous, dans nos galères, ben, y a une réalité micro, une réalité sur le moment même. Dieu est là, tout simplement. Dieu est puissant, Dieu est là, et Dieu entend, Dieu voit. Et puis il y a aussi une réalité macro dans les galères peut-être qu'on traverse, les épreuves. les difficultés. C'est que Dieu accomplit un plan souverain dont très certainement les tenants et les aboutissants nous dépassent. Et ça nous pousse à l'humilité et à la confiance. Alors, dans nos galères, quel positionnement face à Dieu? Ce sera notre dernier point. Comment vais-je interagir avec Dieu lorsque ça ne fonctionne pas comme je le souhaite? Est-ce que je peux lui faire confiance? Et le témoignage de Jean-Marc est éloquent, mais il y en a plein d'autres certainement dans cette église, de personnes qui peuvent dire « J'ai été éprouvé par Dieu par le passé, ou je le suis peut-être encore. » Et sur le moment, je ne comprenais peut-être pas, mais je peux vous dire que ça a eu comme rôle de faire tomber certaines idoles, ou en tout cas de commencer un travail en moi. Et je ne le regrette pas derrière. Ou alors, je continue à considérer la bonté de Dieu dans ces moments-là. Une autre réaction, ça pourrait être un peu comme Laban. Bon, je vois Dieu bénir certaines personnes autour de moi. Il a vu Jacob être béni par Dieu, mais moi, je ne change pas mes petites habitudes. Ça passe à côté de moi. Est-ce qu'on peut voir Dieu comme un moyen d'obtenir ce qu'on veut, comme Rachel? Et si je ne l'ai pas, j'essaye à ma manière, en prenant une servante. Ou est-ce que comme Léa, on va chercher notre réconfort auprès de Dieu et reconnaître sa main même au milieu de la souffrance? Et même finir par louer Dieu. Cette fois, je célébrerai l'Éternel. Ou alors comme Jacob, qui a eu cette rencontre personnelle avec Dieu avant ce récit, qui commence un cheminement et qui apprend progressivement à compter sur ses promesses et à reconnaître sa direction dans sa vie. Alors, qui nous soyons? Dieu nous appelle à considérer ces deux réalités micro et macro dans nos vies. Et peut-être, je crois vraiment que le signe le plus fort, pourquoi on peut faire confiance à Dieu, c'est que Dieu est venu accomplir un plan merveilleux en Jésus. La réalité micro, Jésus est proche de nous. Dieu est proche de nous. La preuve, il y a 2000 ans, il est venu en tant qu'homme. Dieu est au milieu de nos galères. Et puis la réalité macro, qui est le prolongement de cette promesse à Abraham de bénir toutes les nations, notamment au travers d'un descendant de Judas, vous savez, le fils que Léa a appelé « Cette fois, je célébrerai l'Éternel », qui est le symbole, c'est bon, mon idole maintenant, c'est plus ma maternité ou mon amour pour Jacob, mais je me tourne vers Dieu. Judas aura un descendant, c'est Jésus, il est issu de cette tribu-là. Et Jésus vient accomplir le sauvetage d'une humanité tordue. C'est beau ce symbole de la naissance de Judas. Eh bien, on peut faire confiance à ce Jésus qui est venu redresser ce qui est tordu. Et c'est l'encouragement qu'on peut garder pour nous, de nous dire qu'on a un Dieu compatissant, puissant, qui accomplit ses plans d'une manière parfois qu'on ne comprend pas. Et qui veut quand même bénir des hommes tordu. Alors la question pour nous, c'est quelles sont les idoles que Dieu veut nous voir lâcher, des idoles immatérielles, et qu'est-ce que je dois découvrir ou redécouvrir de Dieu dans cette situation, dans sa compassion, dans sa puissance qui m'aide à traverser mes galères. Je vais terminer en priant. Merci Dieu parce que tu as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ce que tu dis, ça s'accomplit. Merci d'avoir envoyé Jésus. Preuve suprême de ta présence, de ton amour, de ta puissance, de ta compassion, de ta volonté de redresser ce qui est tordu. Merci de nous avoir donné une espérance. Je te prie pour tous ceux qui se questionnent. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu, t'es où? Dieu, est-ce que je peux te faire confiance? Redonne courage, redonne foi à chacun. Et ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent, révèle-toi à eux qu'ils puissent te faire confiance. Continue, Seigneur, de nous purifier de ces idoles, de ces choses qui nous détournent de toi. Et c'est vrai que parfois, ça fait mal de se dire, mais je dois lâcher ça pour te suivre, pour te faire confiance, pour t'obéir. Je t'en prie, Seigneur. Sois toujours plus présent dans nos vies comme quelqu'un à qui on peut s'attacher. Parce que c'est ce que tu désires par-dessus tout. Amen.